Nous sommes des serviteurs quelconques. Nous avons fait que notre devoir. Oui, frères et sœurs, nous sommes avec Jésus sur la route qui monte à Jérusalem. Jésus vient de parler aux pharisiens, puis aux disciples. Maintenant, c'est à ceux qu'il a choisis pour partager son intimité qu'il s'adresse. Et durant cette montée, de quoi Jésus parle-t-il à ses 12 ? De l'indispensable détachement qui fera d'eux d'authentiques témoins. Eh bien, frères et sœurs, ensemble, redécouvrons cette parole. Premièrement, de pauvres hommes inutiles. Oui, des pauvres qui, sans doute, se sentent loin des actions éclatantes et des paroles exigeantes de leur maître. Et comme on comprend leur besoin d'être fortifiés, Seigneur, augmente en nous la foi. Une demande que Jésus semble toutefois accueillir avec réserve. D'abord, parce qu'il leur dit qu'une foi grosse comme la plus petite des semences de la terre suffit à réaliser de grandes choses. Ensuite, parce qu'ils ne sont pas choisis pour réaliser des prodiges, mais pour être de pauvres serviteurs ne faisant que leur devoir. Autrement dit, sans désapprouver la demande légitime de ses amis, Jésus les prévient du risque de s'enorgueillir en le suivant et de s'illusionner sur leur état de sainteté et leur valeur personnelle. Et à celui qui serait tenté par le spectaculaire, il rappelle que l'essentiel n'est pas dans l'agir et le faire, mais dans l'attitude humble et confiante de celui qui se sait pauvre homme, combien même il aurait fait tout ce qu'il devait. Bien, ceci nous conduit à un deuxième point. De pauvres hommes inutiles qui sont choisis pour servir. Pour l'instant, les 12 sont encore dans l'éblouissement de tout ce qu'ils ont vu et entendu. Alors, longuement et patiemment sur cette route vers Jérusalem, Jésus prépare les siens aux événements futurs. Le suivre, lui, c'est d'abord l'accueillir comme étant venu servir les hommes en donnant sa vie pour eux. Autrement dit, leur vie à eux, les disciples, leur dignité, leur sainteté, n'est autre que dans l'humble service du frère à la manière dont il leur donnera l'exemple lorsque, dans quelques jours, à Jérusalem, il s'abaissera pour leur laver les pieds. Bien, voilà, frères et sœurs, la première leçon de cette page. En suivant Jésus et plus tard en imitant Marie, le disciple du Christ ne peut ambitionner qu'une seule chose, l'humble service, cause d'une joie que nul ne peut ravir. Troisième point, de pauvres hommes inutiles choisis pour servir. Mais pour quelle mission? Nous le savons, une mission universelle qui conduira ces hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est bien pour cela qu'ils pressentent en eux-mêmes que ce qu'ils vivent est quelque chose d'inouï, quelque chose de privilégié. Un privilège, effectivement, intransmissible et inaliénable, avec son risque d'orgueil, parce qu'ils seront toujours les seuls et uniques à avoir vu, entendu, touché le Verbe de Dieu, les seuls à avoir mangé et bu avec celui qu'ils ont reconnu et appelé Seigneur. Oui, quel privilège! mais un privilège lourd de conséquences dont ils n'ont pas encore conscience et qui les conduira loin, très loin, et jusqu'au bout, jusqu'à celui du don de leur vie à la suite du Seigneur. Pour l'heure, chacun d'eux doit encore passer de ses prétentions humaines à sa vraie place de serviteur appelé à participer au pouvoir salvifique du Père. Et nous voyons comment, après la Pentecôte, par action de la grâce, des hommes sans influence, sans pouvoir, sans moyens financiers, sans organisation, sans rien, c'est-à-dire vraiment pauvres et détachés, ont changé le cours de l'histoire. Dès lors, quelle peut être leur ambition, sinon celle de demander à grandir dans la foi qui leur permettra d'accueillir cette mission universelle avec l'humilité qui fera d'eux d'authentiques témoins et serviteurs. Quatrième point, ce chemin de ces 12 est un chemin qui nous concerne, nous aussi. Parce que le chrétien est un autre Christ, pour cette raison, nous sommes tous concernés par cet évangile, parce que tous appelés, de par notre baptême, à reproduire dans nos vies l'image de celui qui est venu, non pour être servi, mais pour servir jusque dans la situation d'esclave, sans aucune considération, et jusqu'à la mort de la croix comme un malfaiteur, bouleversant toutes les normes et les convenances du monde, en commençant par ces pauvres hommes qui le suivent. Oui, frères et sœurs, comme hier à ses disciples, voilà comment de la foi nous sommes conduits au service. Et Jésus nous redit que cette foi que nous avons reçue et dans laquelle nous devons grandir est indissociable de ce service gratuit. C'est nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celui d'avoir fait votre sainte volonté. C'est ce que chantent justement les scouts dans leur prière qu'ils ont reprise de saint Ignace de Loyola et que bien nous entendrons tout à l'heure. Oui, un enseignement, frères et sœurs, qui nous ramène à cet essentiel, pas de privilège dans le royaume ni de rang d'honneur, seule une hiérarchie de service. Mon point suivant, c'est de voir comment ce service s'enracine dans la dépendance du Père. Oui, nous le savions bien sûr déjà, on nous l'a souvent dit et on nous le redit tout le temps, notre vocation est de servir. Mais la manière dont je vais actualiser ce service dans le concret dépend fondamentalement de la manière dont je vis ma relation à Dieu. Car c'est de celle-ci que tout dépend. C'est pourquoi nous devons nous demander quelle est ma relation à Dieu. La lettre de saint Paul à Timothée nous le dit, on ne peut plus clairement. Notre relation à Dieu est une relation de fils envers son Père. Nous avons été rachetés, rendus capables d'être fils de Dieu, dit-il. Et cette relation de dépendance filiale envers le Père fait que nous ne sommes pas n'importe quelle créature, non pas des esclaves, mais des créatures libres, rendues capables d'être chacun coopérateur de Dieu. Oui, coopérateur de Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, on se rend compte que ce n'est pas seulement grand ni très grand d'être coopérateur de Dieu, mais que c'est simplement prodigieux. Si dans le monde, les hommes sont fiers lorsqu'ils servent un grand maître ou un président, quelle doit être pour nous, chrétiens, notre fierté de servir Dieu comme notre Père? Eh bien, le temps est venu de conclure. Oui, frères et sœurs, que nous dit donc la parole d'aujourd'hui? Deux choses qui n'en font qu'une. L'homme n'est rien devant Dieu sinon comme un serviteur inutile, et pourtant il peut participer à la puissance créatrice de Dieu comme quelqu'un qui déplacerait un grand arbre pour le jeter dans la mer par sa seule parole. Voilà la puissance cachée d'un fils et d'une fille de Dieu qui, par sa foi, même toute petite, met entre ses mains la participation à la force créatrice de Dieu lui-même. Voilà donc, frères et sœurs, la foi que nous avons reçue du Père et par laquelle le Père rend ses fils partenaires de son dessein d'amour sur l'humanité à la suite de son Fils unique, Jésus. Et il revient à chacun et à chacune, non seulement de demander la foi dans la prière, de la renouveler dans l'adoration et de l'entretenir par les sacrements de l'Église, mais aussi, bien sûr, et surtout, de la mettre en acte dans le quotidien. Et c'est parce que la foi est l'âme de nos vies au quotidien que le Père envoie les fils que nous sommes pour élever, sanctifier et transformer le monde présent. Alors, oui, la foi, ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité, celle qui rend capable le croyant de transformer le monde à condition qu'il fasse une confiance totale, comme un fils à ce maître de l'impossible qu'est Dieu. Voilà ce dont nous parle l'Écriture aujourd'hui, de la première des vertus théologales qu'est la foi. Et ça tombe bien, car on est encore pour quelques jours dans l'année de la foi, cette foi qui doit se prolonger maintenant et aussi nourrir notre vie et pour qu'elle soit mieux au service des autres. Eh bien, pour terminer cette méditation, je propose qu'ensemble, nous rendions grâce à Dieu d'une manière toute singulière et personnelle. Comment ? Oh, pas en faisant de grandes choses, simplement en reprenant dans le silence de votre cœur cette louange que la deuxième prière eucharistique met sur les lèvres du prêtre juste après la consécration. Une louange au Père qui tient en une phrase et qui peut paraître banale lorsqu'on est distrait, mais qui pourtant est si juste et lourde de sens qu'elle peut éclairer toute une vie. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir choisis pour servir en ta présence.